Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Au menu, l'ONU déplore la persistance des abus contre les civils en Syrie, et ce presque 9 ans après le début du conflit. Les Nations Unies qui viennent justement en aide aux milliers de migrants bloqués à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Nous ferons le point sur la situation sécuritaire à Gao, au nord du Mali. Et puis notre invité est Fernand de Varenne, le rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités. Le conflit armé en Syrie est loin d'être terminé et sur le terrain, les abus continuent de se multiplier, déplore aujourd'hui la commission d'enquête de l'ONU dans son rapport publié donc ce lundi à Genève. Après près de 9 ans de violence, les femmes, les enfants et les hommes syriens continuent de faire face à des niveaux de souffrance et de douleur sans précédent, a dit aux médias Sergio Paulo Pinheiro, le président de la commission, le juriste brésilien qui a fustigé les raids aériens aveugles et meurtriers des forces pro-gouvernementales dans le sud d'Idlib.
Il sera nécessaire qu'on continue cette enquête sur la situation Idlib parce que les évidences sont tellement claires qu'il faut véritablement approfondir nos analyses sur cette question. La question de la protection des civils, elle n'a jamais été la préoccupation de parties engagées dans ces conflits. Je crois que le principal appel, il faut assurer l'aide humanitaire. Ce n'est pas nécessaire que le pays, les États membres attendent quelques décisions de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. C'est un devoir d'assistance humanitaire dans des situations qui sont visibles partout dans le monde. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un rapport précis. Il faut justement regarder ce qu'on voit dans la télévision, on écoute dans la radio et dans le social media. Le principal appel, c'est aider cette population de femmes et des enfants et des bébés, de manière qu'ils peuvent survivre au terrible hiver qu'ils doivent faire face sans aucune protection.
À la frontière entre la Turquie et la Grèce, au moins 130 000 migrants ont passé la nuit dans le froid dans l'espoir de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Un vaste mouvement de population qui fait suite à la décision de la Turquie de ne plus empêcher les migrants d'entrer en Europe. Sur place, l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, s'efforce de venir en aide aux migrants les plus vulnérables. Pascal Sim nous en dit plus.
Selon l'OIM, ce sont au moins 130 000 migrants qui sont massés le long de la frontière terrestre, longue de 212 km, séparant la Turquie de la Grèce. Parmi eux, de nombreuses familles avec des femmes et de jeunes enfants. Beaucoup ont voyagé en bus et en voiture depuis Istanbul jusqu'à la ville d'Edirne, dans le nord-ouest de la Turquie, avant de se rendre à pied ou en taxi vers la frontière grecque. Ces migrants de diverses nationalités n'ont souvent qu'un sac à dos ou traînent une valise avec eux, dans l'espoir de se rendre en Europe. L'OIM a déployé son personnel dans les zones frontalières afin de venir en aide aux migrants les plus vulnérables. L'agence onusienne a distribué des repas, de l'eau ainsi que des couvertures thermiques. Les conditions de ces migrants, dont beaucoup ont dû dormir en plein air, est extrêmement précaire. Les températures chutent à près de zéro et le vent est assez mauvais, a expliqué le chef de l'OIM en Turquie, Lado Gvilava, qui s'est dit préoccupé par le sort de ces migrants vulnérables. L'agence onusienne rappelle que ces voyages vers l'Europe présentent des risques importants pour la sécurité des migrants et de leurs familles, qui sont souvent victimes de passeurs, de conditions météorologiques défavorables et d'un manque d'accès à la nourriture et à l'eau.
Le directeur Afrique de l'Ouest des départements des affaires politiques et des opérations de maintien de la paix de l'ONU était en visite au Mali la semaine dernière. À cette occasion, Abdoul Fatah Moussa s'est rendu à Gao, dans le nord du pays, où il a échangé avec la société civile sur la situation sécuritaire, mais aussi sur la vision de l'ONU en cette année du 75e anniversaire. Abdoul Fatah Moussa au micro de notre confrère Issa Mahamar Meiga de Mikado FM.
Il y a eu quelques des positifs, mais généralement c'est que la situation sécuritaire est devenue un peu pire quoi que l'année dernière. Alors c'est pour savoir quelles sont les raisons, comment est-ce qu'on peut transformer ces situations, et aussi pour saisir l'occasion d'accueillir les observations de la société civile, les représentants de la société civile sur leur vision des Nations Unies. Cette année, l'ONU a 75 ans. Dans 25 ans, qu'est-ce qu'ils voient, hein, l'avenir du monde? Voilà, comment, pour qu'on ne laisse personne derrière. Ouais, quels sont les avis? Et on a récolté beaucoup de recommandations très pertinentes. Et je crois que ça va animer les événements autour de l'Assemblée générale cette année.
Suite à la fusillade dans la ville allemande de Hanau, au cours de laquelle 9 personnes ont été tuées, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités tire la sonnette d'alarme. Les discours de haine par le biais des médias sociaux, qui visent majoritairement les minorités, sont en augmentation. Fernand Varenne a demandé que ce poison des esprits en ligne soit reconnu et combattu. Des propos recueillis par Christina Silvero.
Au-delà de l'attaque à Hanau en Allemagne, qui a fait 9 victimes, il y a eu depuis quelques mois, beaucoup d'incidents à travers le monde. Des incidents, des attaques haineuses, si vous voulez, où les victimes, les personnes qui sont ciblées, ce sont les membres des minorités. Et dans le cadre de mes activités en tant que rapporteur spécial pour les questions relatives aux minorités, justement, j'ai remarqué, j'ai reçu beaucoup d'allégations, des allégations d'attaques accrues, de propagande haineuse, de discours haineux par les médias sociaux qui encouragent les gens à attaquer certains membres de minorités religieuses. Donc, vous savez, il y a eu des incidents célèbres comme celui de Hanau. Il y a également eu des incidents en France, en Inde, au Nigeria, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis. Et il y a un phénomène où il semble non seulement y avoir un plus grand nombre d'incidents de violence qui ciblent les minorités à travers le monde, mais également une montée du discours haineux dans les médias sociaux qui semble alimenter toutes ces attaques et ces incidents violents.
À quoi ressemblent ces messages sur les médias sociaux?
Vous savez, il y a un discours qui a même des origines historiques. Il y a des situations où on compare, par exemple, les migrants ou les minorités religieuses comme étant des étrangers, des menaces, des criminels, des terroristes, ou même comme étant des cafards, ou étant en fait des animaux dont on doit se débarrasser. La liste est presque infinie de termes dérogatoires, de haine qui sont propagées par les médias sociaux, qui invitent finalement d'autres personnes à se débarrasser de ces criminels, de ces animaux, de ces étrangers, de ces gens qui n'appartiennent pas.
Qui sont les auteurs de ces messages?
Écoutez, finalement, il y a un phénomène qui se propage un peu partout. Il y a seulement quelques jours, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance a lancé un véritable cri d'alarme concernant la situation en Europe par rapport à la montée de l'ultranationalisme, de l'antisémitisme et de la haine envers les musulmans, mais aussi d'autres minorités. Et la Commission vient de noter qu'il y a une augmentation visible et même accélérée du discours haineux sur presque toutes les plateformes de médias sociaux dans beaucoup de pays d'Europe. Mais en tant que rapporteur spécial, je peux vous confirmer que moi-même, j'ai noté une augmentation récente assez phénoménale du discours haineux contre les minorités dans la plupart des pays dans lesquels j'ai pu obtenir des données. Et c'est quelquefois un peu difficile, mais il est clair que la plupart des incidents de discours haineux ciblent les minorités. Par exemple, pour ce qui est du pays de Galles et l'Angleterre, un tout récent rapport du Home Office qui parle de plus de 80% des crimes haineux ciblent les minorités religieuses et ethniques. Plus de 80%. Et ça semble se répéter dans des proportions plus ou moins semblables dans la plupart des pays où moi j'ai pu obtenir des données.
Justement, comment est-ce qu'on arrive à quantifier les messages de haine et à déterminer qui en sont les auteurs et ouais, les destinataires aussi?
Merci. C'est justement l'une des études que nous sommes en train de mener maintenant. Il y a des réseaux, il y a des organismes, mais surtout des organismes non gouvernementaux, qui étudient de près la question des médias sociaux et qui mènent des études concernant justement le discours haineux, quelquefois par rapport à des minorités précises, pour essayer de mesurer l'étendue de ce fléau. Donc, pour ce qui est de certains pays, il y a des données, il y a des organisations qui mènent des études qui nous permettent d'obtenir certaines données. Malheureusement, c'est évidemment pas partout à travers le monde, c'est pas fait de façon systématique, et c'est clair que pour certaines régions comme l'Afrique, c'est beaucoup plus difficile et même presque impossible d'avoir des données fiables. Ça explique un peu l'une des initiatives de mon mandat. Nous prévoyons organiser 4 forums régionaux sur la question du discours haineux, des médias sociaux et des minorités. Un des forums régionaux serait dans la région d'Afrique du Moyen-Orient, l'autre l'Asie-Pacifique, troisième l'Europe et finalement les Amériques. Ces rencontres permettront d'identifier des experts, d'identifier des organisations qui ont pu mener des études qui nous permettraient d'obtenir des données dont on a absolument besoin.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.